Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Il n'y a pas une famille ouvrière qui n'aborde cette rentrée sans appréhension. Le sort des travailleurs n'a jamais été enviable, mais depuis l'éclatement de la crise, il y a 3 ans, le recul des conditions de vie s'accélère et il s'accélérera à chaque aggravation de la crise. Vous avez vu que les tempêtes boursières continuent et que la crise financière menace à nouveau. On pourrait se dire, pour se rassurer, que toute cette agitation sur les marchés financiers ne concerne que les spéculateurs, les brasseurs d'argent, en tout cas ceux qui ont de l'argent à placer, et puis qu'elle ne concerne que de très loin les travailleurs. Mais on sait tous qu'au bout du compte, ils voudront faire payer la note aux travailleurs. Parce que c'est toujours sur le dos des travailleurs, des exploités, que la bourgeoisie et les spéculateurs essayent de récupérer leurs pertes et de rétablir leurs profits. Les commentateurs viennent de découvrir que la pauvreté en 2009 a augmenté et qu'il y a 8 200 000 pauvres en France, c'est-à-dire 8 200 000 personnes qui vivent avec moins de 954 euros par mois. Mais comment pourrait-il en être autrement? Avec des dizaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de magasiniers, de chauffeurs routiers, d'intérimaires qui ont été licenciés et qui ont perdu le salaire qui les faisait vivre. Combien parmi eux ont épuisé leur droit au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Et puis même pour ceux qui ont encore un emploi et un emploi à temps plein, eh bien la vie devient aussi de plus en plus difficile. Parce que tout augmente. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, le carburant, tout augmente. De 3, 5, 10%. Mais qui, parmi nous, a vu son salaire, ses allocations ou sa pension de retraite augmenter à ce rythme? Personne. Et les salaires, eh bien, ils ne suivent même pas l'augmentation des produits alimentaires. Alors quoi d'étonnant à ce que le secours populaire ou les restaurants du cœur se remplissent, y compris le travailleur? Le chômage mine la classe ouvrière. Il la mine matériellement, mais aussi moralement. Pour les jeunes qui commençaient la vie active, ces 3 dernières années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris diplômés, qui se sont entendus dire que ça n'embauche pas. Combien de CV ont-ils envoyés? Combien de stages ont-ils acceptés? Et combien d'attentes ont-elles été déçues? Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est ballottée de stage en stage, de petit boulot en petit boulot, le tout entrecoupé de longues périodes de chômage. La plupart des jeunes sont obligés de galérer, parfois pendant des années, avant de trouver un vrai emploi. Alors, à travers l'explosion du chômage et la dégringolade du pouvoir d'achat, c'est la classe ouvrière dans son ensemble qui paye la crise, depuis 3 ans déjà. Mais le gouvernement veut en plus lui faire payer la dette de l'État. Dès cette rentrée, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de rigueur. Histoire de prétendre que les sacrifices sont équitablement partagés, Fillon a décidé une taxe exceptionnelle de 3% sur les très hauts revenus. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une collecte exceptionnelle de quelques pièces jaunes auprès des plus riches. Rien que les taxes supplémentaires sur les sodas, les alcools et le tabac rapporteront 6 fois plus que la contribution des plus riches. Et puis, buveurs de Fanta et autres Orangina, que vous soyez smicard ou chômeur, eh bien vous aurez l'honneur de rapporter aux recettes de l'État un tiers de ce que rapporte la taxe sur les plus riches. Alors, quel que soit l'enrobage, quand les dirigeants politiques parlent de rigueur, ce sont toujours les classes populaires qui finissent par payer. Et que les candidats socialistes à la primaire cherchent tous à concurrencer Nicolas Sarkozy sur ce terrain de l'austérité, eh bien, cela montre une chose. C'est que s'ils reviennent au pouvoir, la seule chose qui changera, c'est que les coups, au lieu de venir de la droite, ils viendront de la gauche. Il allait continuer à supprimer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. C'est-à-dire qu'il allait continuer à démolir les services publics. Mais des milliers de postes de personnel hospitalier ont déjà été supprimés, avec pour conséquence des milliers de lits d'hôpitaux en moins, la fermeture de services entiers, la fermeture de maternités. Et puis, se soigner coûte de plus en plus cher, entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales, les dépassements d'honoraires. Combien d'entre nous hésitent pour aller chez le dentiste ou pour changer de lunettes? Combien d'entre nous renoncent à acheter ce que l'on appelle maintenant les médicaments de confort? Alors pour les maladies graves, on arrive encore à se faire soigner. Mais pour tout un tas de problèmes de santé moins graves, eh bien oui, on se soigne de moins en moins. Dans l'éducation, le gouvernement a supprimé 64 000 emplois d'enseignants en 4 ans. Oh, le manque de professeurs ne se voit pas beaucoup dans les beaux quartiers. Parce que là, les remplacements sont assurés et on peut étudier sans problème avec 3 ou 4 élèves de plus par classe. Mais dans les communes populaires, des classes ont manqué d'enseignants pendant 1, 2 ou 3 semaines parce qu'il n'y a plus de remplaçants. Des élèves en difficulté s'installent dans l'échec et dans le rejet de l'école parce que l'enseignant ne peut plus rien faire pour lui parce qu'il ne peut plus travailler en petit groupe. Alors en cette rentrée, Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale, veut faire croire que tout se passe bien et que ces milliers de suppressions de postes ne posent aucun problème. Dans les entreprises, on parlerait de gains de productivité. Mais là, on parle d'élèves, on parle d'enfants, on parle de jeunes, qu'il est de plus en plus difficile de suivre, d'encadrer, d'entraîner. Oui, l'éducation des enfants qui en auraient le plus besoin est sacrifiée. Et ce ne sont pas des gains, mais des pertes sèches pour toute la société. Quant à la retraite, eh bien vous savez comme moi ce qu'il en est. Non seulement le gouvernement a reporté de 60 à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite à l'automne dernier, mais depuis il a aussi augmenté la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein à 41 annuités et demie. Et puis les retraités des classes populaires vivent de plus en plus mal, avec des pensions qui se réduisent comme peau de chagrin. Et surtout, les plus anciens, s'ils ne sont pas mis à la porte, devront s'épuiser au travail 2 années de plus, alors que tant de jeunes sont au chômage. Plus de chômage, plus de misère et de moins en moins de droits, eh bien tout cela s'ajoute et rend la vie de la classe ouvrière de plus en plus dure. Et après ça, le gouvernement ose parler de sacrifices partagés et de solidarité nationale entre les riches et les pauvres. Eh bien, je vous le garantis, plus que tous nos discours, c'est le gouvernement, c'est la bourgeoisie, ce sont les capitalistes qui finiront par faire exploser la colère des travailleurs avec leur cynisme, leur cupidité, leur ignominie. C'est eux qui mettront le feu aux poudres. Le gouvernement Sarkozy-Fillon fait un chantage quasi permanent en invoquant le montant de la dette de l'État et en prétendant qu'il est du devoir de chaque citoyen de contribuer au remboursement de cette dette. Eh bien, c'est un chantage grossier. Pendant ces 3 années de crise, le gouvernement a contracté 420 milliards de dettes supplémentaires. 420 milliards. Mais où est passé cet argent ? Qui est-ce qui en a profité ? Il ne s'est pas envolé. Bien, ce qui est sûr, c'est que cet argent, il n'est pas dans nos poches à nous. Ceux qui en ont profité, ce sont d'abord les banquiers. Je vous rappelle que pour les banquiers, tous les États qui ont du mal d'ailleurs aujourd'hui à trouver quelques millions pour sauver de la famine des millions de gens en Afrique, eh bien, ils ont trouvé là, du jour au lendemain, des centaines de milliards d'euros. Par ailleurs, l'État est intervenu auprès de tous les capitalistes dont les marchés semblaient menacés par la crise, à commencer par l'industrie automobile. L'État français s'est porté au secours de Renault, de PSA, en débloquant pour chacun 3 milliards d'euros, et puis en finançant une prime à la casse. En fait, pendant ces 3 années, le gouvernement a fait de l'assistanat en grand pour capitalistes en difficulté. Et je ne vous parle pas des assistés permanents qui vivent grâce aux commandes de l'État, comme Dassault, qui n'auraient pas vendu beaucoup de rafales si le gouvernement français n'en avait pas acheté. Mais à tout ça, eh bien, il faut rajouter aussi les niches fiscales qui offrent à tous ceux qui brassent un peu d'argent une multitude de moyens pour payer moins d'impôts, voire pour ne pas en payer du tout. Elles représentent un cadeau de l'ordre de 75 milliards par an. Entre la niche fiscale qui permet aux grandes entreprises de déduire les pertes d'une année sur les bénéfices de l'année suivante, celle qui permet de déduire les dépenses de recherche, celle qui exonère les gains obtenus sur la vente d'une filiale, j'en passe et les meilleurs, eh bien la bourgeoisie, elle a vraiment de quoi faire baisser ses impôts. Au point que les très grosses entreprises finissent par payer en pourcentage moins d'impôts que le cafetier ou le buraliste du coin. Au point que Madame Bettencourt, une des premières fortunes de France, a longtemps été imposée au taux de 12%. Et puis à tout cela, c'est rajouté le célèbre bouclier fiscal. Sur les 5 années où le bouclier fiscal aura joué, il aura fait économiser pas loin de 3 milliards aux plus riches. Eh bien, là encore, c'est le budget de l'État qui a payé ce cadeau. Alors voilà les raisons pour lesquelles ce budget est en déficit. Voilà pourquoi la dette a explosé. Voilà où sont passés les 420 milliards. Alors, si l'État a du mal aujourd'hui à honorer ses dettes, eh bien qu'il présente la note à la bourgeoisie, mais pas aux travailleurs et pas aux classes populaires. Le mensonge de l'égalité devant les sacrifices est d'autant plus grossier que non seulement la bourgeoisie ne paye pas sa dette, puisqu'elle l'a fait payer aux classes populaires, mais en plus, ça lui rapporte. Les 50 milliards d'intérêts de la dette qui sont payés chaque année partent encore dans la poche des banquiers et des groupes industriels qui se livrent justement à ces opérations financières. Eh bien, cela s'appelle gagner le beurre et l'argent du beurre. Alors, ce que j'ai à dire aux travailleurs, c'est que le chantage des ministres concernant la dette ne doit pas nous empêcher de nous défendre. La crise ne doit pas nous empêcher de défendre nos emplois, de défendre notre pouvoir d'achat, de défendre notre vie. Confrontés à la crise, bien des capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement des affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, baissent la masse salariale, licencient. Certaines entreprises se permettent même de baisser tout simplement les salaires. C'est le cas à la fonderie du Poitou Aluminium, où travaillent 480 salariés à Châtellerault. La direction a annoncé à la veille des congés d'été la mise en place d'un plan de compétitivité avec une baisse de 15% des salaires d'ouvriers, une réduction du temps de travail à 35 heures et la remise en cause de 7 jours de RTT. Eh bien, l'addition de toutes ces mesures se chiffre à une perte de salaire de 23%, c'est-à-dire de 350 euros à 500 euros par mois sur un salaire d'ouvrier. C'est ça où la fermeture de la fonderie ose prétendre la direction. Mais le groupe Montupé, propriétaire de la fonderie, a affiché des résultats financiers et industriels records sur le premier semestre 2011. Et puis la fonderie elle-même est bénéficiaire. Alors depuis cette annonce, les ouvriers de la fonderie refusent ce chantage ignoble. Ils se sont lancés dans un combat long et difficile pour sauver leur peau. Et vraiment, nous sommes de tout cœur avec eux. Mais cet exemple, comme l'exemple de PSA que Julien a développé, de cette entreprise ô combien bénéficiaire qui prévoit, qui projette de mettre à la porte 6000 travailleurs. Eh bien, ces deux exemples témoignent à eux seuls que les capitalistes n'en ont jamais assez, que leur rapacité n'a pas de limite. Pour établir leur taux de profit, les capitalistes sont prêts à pousser au chômage et à la misère l'ensemble du monde du travail. Eux, ils mènent la lutte de classe. Eh bien, c'est à nous, travailleurs, de mener la nôtre. Le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. La seule perspective valable pour les travailleurs, c'est d'inverser ce rapport de force. C'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Seules des luttes puissantes, déterminées de l'ensemble du monde du travail, empêcheront les travailleurs de reculer. Il n'y a pas de raccourci électoral. Car il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. Alors aujourd'hui, c'est vrai, le rapport de force est favorable à la bourgeoisie. Elle a pour elle la puissance de l'argent, le pouvoir sur l'industrie et l'économie. Elle a pour elle les dirigeants politiques, elle a les lois. Mais les travailleurs ne sont pas pour autant désarmés. Ils ont pour eux la force du nombre. Et puis ils font tourner toute l'économie. Et ils peuvent décider collectivement de l'arrêter en faisant grève. Eh bien c'est comme cela qu'ils pèseront sur le patronat et le gouvernement. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, une situation devenue imprévisible où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais de perdre aussi leur pouvoir sur les entreprises. Nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs, l'avidité des riches, leur cynisme finiront par provoquer une explosion sociale. Nous en sommes certains parce que c'est la seule voie. Que les exploités croient ou pas aujourd'hui en la possibilité des luttes n'y change rien. Il faudra en passer par là, il n'y a pas le choix. Il faudra sauver notre peau. Quand, où, comment ces luttes se déclareront ? Personne ne le sait, personne ne peut le prédire, et il serait vain de broder à ce propos. Mais en revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Dans le feu de la lutte, on peut discuter de bien des choses, on peut faire bien des choses. Mais d'autant plus si nous avons été nombreux à nous y préparer. Alors il faut que dès maintenant, nous discutions de nos revendications. Il faut que le maximum des travailleurs y réfléchissent, discutent des objectifs, qu'ils discutent de ce qui peut nous unir, de ce qui peut nous renforcer, de façon à ce que le jour où ils entrent en lutte, ils sachent où ils veulent aller. Voilà pourquoi nous voulons populariser le plus possible, le plus largement possible, notre programme de lutte. La classe capitaliste montre depuis des années qu'elle est incapable de mettre fin au chômage. Alors il faut lui imposer par la puissance du mouvement des masses l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Il faut financer cela et cela coûtera de l'argent à la bourgeoisie. Mais de l'argent, elle en a. Elle en a même trop, au point de ne pas savoir quoi en faire à part spéculer et menacer la société de crises financières à répétition. Et puis, face aux hausses de prix et à la chute du pouvoir d'achat qu'elles entraînent, eh bien, il faut imposer que les salaires et les pensions de retraite suivent les hausses de prix. C'est-à-dire, il faut imposer l'échelle mobile des salaires et des pensions. Les patrons capitalistes nous expliqueront, ou plus exactement, feront expliquer par leurs serviteurs de la politique et des médias, que tout cela n'est pas possible, qu'il y a la compétition internationale et que cela les ruinerait. Eh bien, qu'ils rendent donc public leurs comptes. Pas leurs comptes officiels destinés à un fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'il y a de quoi assurer l'emploi de leurs travailleurs sans licenciement et assurer même des augmentations de salaire. Et par-dessus tout, pour pouvoir empêcher que les patrons puissent préparer, parfois des années à l'avance, leur mauvais coup contre les travailleurs, contre toute la société, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire et donner aux travailleurs, à la population, les moyens légaux de contrôler ce qui se passe dans les entreprises, de contrôler les comptes, les marges, les bénéfices. La classe capitaliste est une classe irresponsable, dangereuse pour toute la société, parce qu'elle est exclusivement préoccupée de ses profits privés. Elle l'a montré tout au long de la crise. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans la moindre transparence. Mais aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts de la société ou de l'environnement, eh bien il n'a pas légalement le droit de le dévoiler. Eh bien c'est cela qu'il faut changer. Il faut supprimer cet interdit. Quant à l'usage du secret pour les grands patrons, eh bien je rappelle ce scandale dont a parlé déjà Julien, qui a été révélé avant les vacances par la CGT et qui concerne le trust Peugeot-Citroën. En effet, ce trust Peugeot-Citroën étudie dans le plus grand secret depuis 3 ans le projet de fermer 3 de ses usines. Et circonstance aggravante, l'étude de ce projet a été mise en route par la direction juste après avoir reçu de l'État 3 milliards d'euros, alors qu'elle avait promis de ne pas fermer l'usine, de ne pas fermer d'usine du tout. Eh bien, les principaux intéressés, les travailleurs des usines menacées, leurs familles, ainsi que la population environnante, n'en auraient pas été informés si la CGT n'avait pas révélé ce projet scandaleux. Alors, c'est déjà grave que ceux qui dirigent l'économie soient irresponsables à ce point. Mais il ne faut pas les laisser sans contrôle. Bien sûr, la suppression de la loi qui punit actuellement tous ceux qui portent à la connaissance du public de mauvais coups, se préparant derrière le secret des affaires, ne crée que les conditions légales d'un contrôle de la population. Pour que ce contrôle soit effectif, il faudrait encore la volonté de la population de prendre en main ce contrôle et la volonté de se mobiliser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires serait un premier pas pour contester la dictature du grand capital. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres classes ou catégories populaires. C'est l'intérêt de tous ceux, petits commerçants, artisans, petits paysans, dont les revenus sont liés au salaire de leurs clients. Parce que la fermeture d'une usine dans une ville, dans une région, n'est pas seulement un drame pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour tous ceux qui vivent autour, des petits commerçants aux patrons de bistrot. Quant aux banques, qui ont une responsabilité écrasante dans la crise que nous subissons, eh bien, il faut les empêcher de nuire. Au lendemain de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, en septembre 2008, les principaux dirigeants des grandes puissances avaient mis en cause les spéculateurs et les financiers. Et il y en a eu des grands sommets, des G8, des G20, où ils promettaient de combattre les excès de la finance, les bonus, les paradis fiscaux et la spéculation. Et tout le monde s'en souvient, Sarkozy n'avait pas été le dernier. Mais quel est l'État qui a traduit en justice et fait condamner les banquiers coupables? Quels sont les PDG de grands groupes qui ont été condamnés pour avoir fourni de l'argent à la spéculation? Aucun. Non seulement il ne leur a rien été demandé, mais ils ont tous été arrosés d'argent public par Obama, Merkel, Sarkozy et tous les autres. Et est-ce qu'ils sont devenus plus responsables? Les marchés financiers, en fait une poignée de grandes banques et de grandes compagnies d'assurance qui ont pignon sur rue, comme la Société Générale, la BNP Paribas, AXA, le Crédit Agricole, est-ce qu'elles ont cessé de faire courir des risques à la société? Eh bien non. Elle continue de spéculer. Alors ce n'est plus avec les subprimes, ces prêts immobiliers pourris, puisqu'il n'y a plus d'argent à faire avec les subprimes. Alors elle spécule sur les États eux-mêmes, contre leur monnaie, contre leurs dettes. Cela n'a pas suffi aux banquiers d'avoir été renfloués et tirés d'affaires, il faut qu'ils recommencent. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils spéculent maintenant sur l'endettement que les États ont contracté en se portant à leur secours. Alors oui, les banquiers sont des irresponsables. On ne peut plus leur laisser les commandes des banques il les transforme en salles de casino. Eh bien, pour les empêcher de nuire, il faut les exproprier, sans indemnité ni rachat, puis il faut fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Alors, nous ne le répéterons jamais assez, nous savons que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés dans les élections et que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. C'est la seule issue. Mais l'élection présidentielle nous offre la possibilité de défendre ces exigences indispensables aux travailleurs sur une échelle militante plus grande que d'habitude. À la télé, à la radio, devant la presse, je défendrai toutes ces mesures que je vous ai présentées ce soir. Aucun autre candidat ne les met en avant. Même ceux qui se targuent d'être radicaux sont trop respectueux du marché et de la propriété privée pour défendre de telles mesures. Les grands partis, du Front National au Parti Socialiste, jusqu'à y compris le Front de Gauche, ont, malgré leurs différences, une chose en commun. Ils se placent tous sur le terrain de l'organisation capitaliste de la société. Ils considèrent tous qu'il appartient aux riches, aux possesseurs de capitaux, de dominer l'économie et donc la société. Ils considèrent tous que l'efficacité de l'économie se mesure au profit qu'elle est capable de générer. Ils considèrent tous que la propriété privée des usines, des banques, des grandes entreprises, des chaînes commerciales est intangible, pour ainsi dire, une loi de la nature qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas contester. Au-delà de leurs ficelles électoralistes et de leurs mots d'ordre démagogiques, leurs différences politiques correspondent surtout au fait qu'ils visent des électorats différents. Mais ce ne sont que les nuances d'une seule et même politique, favorable à la classe capitaliste, qui ne remet pas en cause les inégalités, les injustices du système capitaliste, qui ne remet pas en cause l'exploitation. Eh bien, il n'y a aucune raison de laisser le monopole aux candidats qui n'imaginent rien d'autre qu'une politique favorable à la bourgeoisie, ou en tout cas acceptable pour la bourgeoisie. Il n'y a aucune raison de laisser le monopole de la parole à ces partis qui s'accommodent d'un ordre social injuste et d'une organisation économique stupide. L'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises ne sont pas engendrées par la misère ou par la sous-production, mais parce qu'il y a trop d'argent, parce qu'il y a trop de production, parce qu'il y a trop de richesses. C'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. C'est une économie qui condamne aujourd'hui, dans la Corne de l'Afrique, 12 millions de femmes et d'hommes à la famine, alors qu'on produit de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Plus on a les moyens de construire vite et bien, plus il manque de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner des maladies graves, de réussir même des prouesses médicales, et moins les travailleurs, les classes populaires se soignent. Et puis, je voudrais m'adresser aux jeunes. Pas seulement parce qu'ils sont les principales victimes de la crise, mais parce que c'est de la société future dont je parle. La société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, 20, 30 ans. Les années à venir dépendent de notre capacité à réagir, à nous défendre, à nous battre et à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise équivalente à celle que nous vivons, la crise de 1929, a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière, celles de 1936 en Espagne, en France, mais elles ont toutes été défaites. Et la société capitaliste a montré qu'elle était alors capable de la pire réaction, de la pire barbarie avec la Seconde Guerre mondiale. à tous ces jeunes, aussi au moins jeunes, révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, eh bien nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Il y a la possibilité de lutter pour un monde meilleur, qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement d'une minorité rapace. Au lieu des replis nationalistes, voire xénophobes, il y a l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles qu'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux auxquels la société capitaliste n'a que l'exploitation à offrir, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités sociales et réorganisée sur des bases communistes. La transformation de la société n'est pas l'enjeu de l'élection présidentielle. Elle ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente de la grande masse des exploités révoltés par leurs conditions d'existence. À une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais la campagne électorale nous donne la possibilité d'armer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Je voudrais enfin vous dire que si la campagne électorale pour la présidentielle nous donne les moyens de nous faire entendre à une échelle un peu plus large que dans nos activités quotidiennes, ces moyens ne pèsent pas lourd face au matraquage des chaînes de télévision, de la grande presse qui colporte le point de vue des possédants. Il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour propager sa politique. Et parmi ces moyens, il y a surtout l'activité des militants, des travailleurs conscients et de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Alors, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, pour en parler et pour nous aider dans la campagne électorale. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement nos idées et à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, dans les entreprises, dans la rue et en tout cas dans les luttes.